17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin aujourd'hui avec Jean-Marc Bevernatori, co-président de l'écologie au centre, conseiller municipal de Nice. Alors, Jean-Marc Bevernatori, on vous connaît puisqu'on vous a déjà reçu sur ce plateau. L'écologie au centre, comment se porte aujourd'hui l'écologie au centre? Parce que vous avez fait campagne au nom de l'écologie au centre au moment de la campagne présidentielle.
Et législative.
Et législative aussi.
Nous nous portons mieux que jamais parce que depuis les élections législatives, nous sommes le premier mouvement écologiste français. Parce que s'il est vrai qu'Europe Écologie est plus souvent que nous dans les médias, si on s'en tient au score et au nombre de candidats, c'est nous aujourd'hui qui représentons l'écologie en France, et c'est très bien, parce que Europe Écologie, c'est l'écologie de gauche, nous le respectons, mais nous sommes écologie centriste, et par conséquent, nous parlons à tous les citoyens.
Ah, vous êtes la première force, mais c'est quand même c'est Europe Écologie Les Verts qui sont à l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui ont des députés, ce sont eux qui ont des conseillers municipaux. Vous dites que vous êtes la première force, mais elle n'est incarnée par aucun député et pratiquement par personne au niveau des municipalités.
Non, nous avons des élus partout en France, dans des municipalités de gauche, dans des municipalités de droite. Donc c'est intéressant votre remarque. Les ELV ont été élus avec Mélenchon.
Donc ils avaient tous ce qu'on appelle la NUPES.
Ben oui, ils avaient tous la photo de Mélenchon qui prétendait être Premier ministre. Et donc, c'est un hold-up. C'est malhonnête, puisque Mélenchon et ses troupes ELV savaient très bien qu'il
ne serait... Mais il n'y a pas que Mélenchon, il y a aussi le Parti Socialiste.
Ah, mais le Parti Communiste, ça ne nous a pas échappé. Mais le fait est que la figure de proue était et Jean-Luc Mélenchon, et ce qui les a fait scorer et la perspective d'être Premier ministre, alors qu'il savait bien qu'il ne pouvait pas l'être, puisque la France vote 70% à droite. D'ailleurs, l'Assemblée est 70% à droite. Donc, c'est un canular.
Alors, vous êtes constamment en train de dire « Europe Écologie Les Verts, c'est à gauche, et nous, on est au centre ». Mais être au centre, c'est aussi de la politique. Vous êtes au centre de quoi? Vous êtes ni de gauche, ni de droite? Vous êtes quoi?
Les écologistes centristes sont des personnes factuelles. L'air et l'eau ne sont ni de gauche ni de droite.
Oui,
sécurité des biens des personnes n'est ni de gauche ni de droite. Donc ça, ce sont les mots du passé. C'est comme les mots croissance économique et décroissance économique, ce sont des mots du passé. Ça, c'est les mots du XXe siècle. Nous souhaiterions que, enfin, notre pays, 7e puissance économique mondiale, prenne enfin à bras le corps les mots du présent. Et les mots du présent, c'est de mettre l'écologie au centre de tout, parce que l'écologie, comme je l'ai démontré dans mes ouvrages, c'est la santé, c'est le plein emploi, ce sont des finances publiques saines.
Alors, restons un peu avec Europe Écologie Les Verts, vous avez été exclu de...
Pas du tout.
Non mais vous n'avez pas, enfin en tout cas du rassemblement, et là par exemple, Édouard Philippe est invité dans leur université d'été, et pas vous.
Alors, ah ben c'est clair. Philippe
est quelqu'un de droite.
Édouard Philippe était invité par le Parti communiste, donc il y est allé. Donc Fabien Roussel, qui est un bon communicant, a fait un bon coup de pub là. Concernant l'Europe Écologie, je n'ai évidemment pas été exclu. Si vous parlez du groupe écologiste de la ville de Nice, c'est moi qui l'ai quitté, puisque je tenais à ce qu'ils quittent la NUPES, ils ne l'ont pas voulu. Moi-même, effectivement, je suis membre du bureau politique de Renaud Muselier, avec son parti Nos Territoires d'abord. À l'époque, lorsque je suis entré dans son bureau politique, il n'était ni chez Macron, ni chez LR, c'est un indépendant. Il reste indépendant, même si aujourd'hui, il soutient Macron. Mais il est clair que l'écologie, sincèrement, c'est vraiment le seul avenir possible pour toutes les personnes qui nous écoutent. Et vouloir sectariser l'écologie, c'est un crime. Donc, il est hors de question que je reste avec Europe Écologie. Effectivement, je l'ai soutenu aux Européennes 2019. J'étais le délégué végétarien de Yannick Jadot. Nous étions ensemble pour les municipales de 2020, mais depuis, chacun fait son chemin et c'est très bien.
Alors, il y a les élections européennes qui se profilent. Habituellement, les écologistes font un très bon score. Et manifestement, là, le Front National et donc est donné vainqueur avec les sondages de ces futures élections européennes. Quelle est la stratégie de l'écologie au centre, et est-ce que vous envisagez des alliances?
Effectivement, de par le fait de notre positionnement centriste, tous les partis républicains nous veulent, mais nous on pense que c'est vraiment le moment ou jamais que d'asseoir définitivement une nouvelle écologie en France, une écologie qui ne soit plus que à gauche. Et par conséquent, nous aurons notre propre liste, l'écologie au centre. D'ailleurs, nous sommes déjà dans les sondages entre 2 et 5 %. Vous savez que le seuil d'élection dans cette élection-là, du dimanche 9 juin 2024, c'est 5 %. Et là, vous avez 5 députés. Ce sera une vraie révolution politique parce que pour une fois, la France n'enverra pas au Parlement des députés conventionnels. Par force est de constater que l'Union européenne se porte aussi mal que notre pays, parce qu'effectivement, il n'y a que des solutions conventionnelles. Et les seuls qui peuvent porter de nouvelles solutions, c'est nous, à Écologie au Centre.
Alors, vous vous êtes fait remarquer, en tout cas, par des déclarations un petit peu tonitruantes ces temps derniers. On parle de la politique carcérale. Il y a de moins en moins de places de prison, il y a beaucoup plus de prisonniers que de places. Emmanuel Macron a parlé de construire de nouvelles prisons et de pour augmenter le nombre de places. Et vous, ce que vous dites, c'est que il faut peut-être, au niveau de la politique pénale, diversifier les peines. Il y a une peine que vous préconisez, c'est le bannissement. Alors expliquez-nous un petit peu ça.
Et vous savez, en tant qu'écologiste centriste, nous regardons les faits. Les faits sont que lorsque vous analysez la politique du logement, ça ne marche pas. La politique de santé de notre gouvernement, qui est en fait une politique de la maladie, ça ne marche pas. Le chômage de masse reste un chômage de masse avec 3 millions de personnes qui, dans notre pays, se réveillent tous les matins sans emploi. Et la sécurité des biens des personnes, c'est pareil, quoi. Donc, à un moment donné, il faut bien se dire la vérité. Soit vous cultivez les mêmes causes et vous aurez les mêmes conséquences, soit vous regardez, vous faites autrement. C'est quand même incroyable que depuis des décennies, on nous explique que la chaîne pénale, ça ne marche pas. Depuis des décennies, on nous dit qu'il n'y a pas assez de places en prison. Mais c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Alors, bien sûr qu'il faudrait que la Constitution permette des peines planchées. Bien sûr, il faut une meilleure politique pénale. Voilà, mais ça, tout le monde le dit et personne ne le fait. Alors, soit c'est impossible
alors
à faire. Si on donne cet outil du bannissement au juge, et c'est bien sûr le juge qui décidera de la pertinence de l'appliquer et à la durée à appliquer, donc soit au multirécidiviste, soit au criminel qui a fait une torture, comme le cas de la malheureuse de Cherbourg qui a été violée et torturée pendant des heures par un psychopathe. Mais je pense qu'il est capital que le juge ait cette mesure, parce que d'une part c'est dissuasif sur une partie de ces individus. Et par ailleurs, c'est une vraie punition. Parce que savoir qu'on va être éloigné à 10 000 km, c'est vraiment la punition ultime. Et je peux vous dire que ça fait mal. Donc moi, j'ai le privilège de jouer au foot quelquefois avec des policiers. Eux, ils savent de quoi ils parlent, contrairement à nous tous. Eux, ils sont sur le terrain. Hein. Vous savez que chaque fois qu'un policier va travailler le matin, et c'est le seul métier comme ça. Après, c'est les pompiers, mais c'est le seul métier à ce point-là. Chaque fois qu'un policier va travailler le matin, il ne sait pas s'il va rentrer le soir. Soit il sera en prison, soit il sera blessé, soit il sera mort. Donc, eux, quand ils parlent de délinquance ou de criminels, ils savent de quoi ils parlent. Donc, je veux que pour les multirécidivistes et pour certains types de criminels, le juge a à sa disposition la possibilité d'exiler pendant un certain nombre de mois ou d'années l'individu en question à 10 000 km de la France. Et ça, je peux vous dire que ça va lui faire mal.
Alors, le bannissement, c'est quand même un mot qui est lourd de sens. Parce que derrière bannissement, on entend le mot bagne. Et puis, par extension, ça peut être vécu comme aussi une déchéance de nationalité, de citoyenneté. Qu'est-ce que vous répondez? Mais
merci de me poser la question, parce qu'effectivement, j'ai vu pas mal de journalistes dont certains ont fait le lien avec bagne, et j'entends. Mais je ne suis pas du tout favorable au bagne, parce que le bagne suppose des châtiments corporels. Écologie au Centre et moi-même sommes totalement défavorables aux châtiments corporels. Nous, on veut de l'efficacité dans le respect du droit et dans le respect de l'homme et de la femme. Donc, c'est bannissement, évidemment, sans bagne, mais très loin de nous.
Qu'est-ce qui change? Vous le mettez à Fresnes, vous le mettez à Bordeaux ou à Marseille, ou vous le mettez sur une île dans une prison, en dehors de l'éloignement géographique, qu'est-ce qui change?
C'est intéressant votre question. Si vous aviez écrit quelques livres comme moi sur le sujet de la sociologie et de l'évolution humaine, j'ai fait une thèse sur les peuples premiers, il y a 20 ans, concernant les Inuits du Canada, sur les Bédouins du désert, sur les Maasai du Kenya, sur les aborigènes d'Australie, sur le peuple des fleurs en Indonésie. Eh bien, certaines tribus usent cet outil de bannir celui qui s'est avéré très méchant. C'est une punition très forte psychologiquement. Et soyez absolument certain, M. Kétan, que l'individu potentiellement criminel ou criminel ou potentiellement multirécidiviste, sachant que ça peut lui arriver, c'est vraiment dissuasif pour une partie d'entre eux.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Oui, en compagnie de Jean-Marc Governatori, co-président de l'écologie au centre, conseiller municipal de Nice, et qui fait beaucoup de choses sur la Méditerranée, entre autres avec Renaud Muselier, qui est très actif sur le développement de la Méditerranée. Alors, on parlait du bannissement. Là, vous allez à contre-courant, quand même, de ce qui fait la tradition à la fois républicaine française et carcérale, puisque le but, quand vous mettez quelqu'un en prison, c'est aussi de le réinsérer. C'est donc de qu'il ait des visites familiales régulières, qu'il ait peut-être des sorties de temps en temps, donc qu'il y ait une espèce comme ça de progressivement qu'on essaie de réinsérer le prisonnier dans la société. Mais là, il n'y a plus de visite, il n'y a plus rien. Vous le mettez sur orbite autour de la planète, et puis après, on ne sait pas ce qui devient, si on le ramène ou si on ne le ramène pas. Vous êtes à contre-courant d'une politique humaniste de ce que la République française a toujours exercé en termes d'incarcération.
J'ai beaucoup étudié le sujet sur la sécurité des biens des personnes, et vous avez tout à fait raison, l'élément réinsertion est très important.
Ah oui.
D'ailleurs, je regrette énormément que seulement 35% des 75 000 prisonniers qu'il y a aujourd'hui en France travaillent au sein de la prison. 65% font rien toute la journée, et c'est très mauvais pour leur réinsertion. Concernant le cas du bannissement et ce que vous exprimez, ça ne concernera que quelques individus spécifiques pour une durée spécifique selon la décision du juge. Je répète, ça concerne certains multirécidivistes, ça concerne certains criminels qui ont fait en plus des tortures, et dans tous les cas, c'est le juge qui décide.
Je veux vraiment les punir. Qui sont irrécupérables, c'est ça ?
J'aurais espéré que personne n'est irrécupérable, mais il y en a certains que je veux vraiment punir. Il y a des choses qui sont inadmissibles, et parce qu'il y a des actes inadmissibles et répétés, celui par exemple qui a commis 10 vols avec violence dans 10 situations différentes, dans 10 habitations différentes, pour qui c'est devenu un mode de vie. Je ne sais pas si parmi les personnes qui nous écoutent, certains ont vécu ça. Chez vous, vous êtes tranquille avec votre femme et vos enfants, il arrive deux mecs cagoulés avec une arme. Vous vous rendez compte, le traumatisme ? Et donc, il y a des individus pour qui c'est un mode de vie, ça. Donc effectivement, la politique judiciaire française a prévu de la prison normale, On est d'accord. Mais une fois, allez. Deux fois, allez. Mais trois fois, quatre fois, cinq fois, j'accepte plus. À un moment donné, il faut taper fort sur la table.
Jean-Marc Governatori, finalement, est-ce que c'est pas votre proposition, c'est pas une espèce d'assouvissement de la peine de mort, ou alors de la légitime défense? Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre en perspective une espèce de punition qui est un succès d'année, soit de la légitime défense, ou soit de la peine de mort? Pour la peine de mort?
La légitime défense a toute sa raison d'être dans certains cas, c'est pour ça que ça s'appelle la légitime défense d'ailleurs. Non, écologie au centre et moi-même sommes opposés à la peine de mort. Par contre, on est favorable, évidemment, à une peine graduée. La graduation de la peine et la certitude de la peine et la fermeté de la peine sont capitales pour réduire les probabilités de récidive. C'est un fait absolu en matière de police.
Alors, pour terminer avec cette idée de bannissement, vous parlez d'îles inhabitées, par exemple, comme l'île de Kerguelen. Comment ça se passe? Vous les lâchez dans la nature? Vous construisez quelque chose en dur sur cette île inhabitée? Les modalités, quels sont les gens qui sont censés les surveiller? Comment se passe l'alimentation, la santé? S'ils tombent malades, s'ils meurent, où est-ce qu'on les enterre? S'ils tombent malades, où est-ce qu'on les soigne? Est-ce qu'il y a des visites qui sont toujours réglées? Ça se passe comment à quelqu'un qui est banni sur une île déserte?
Bonne question. Évidemment, on fait une prison, on construit. Vous savez qu'on doit construire des prisons. Et vous savez que beaucoup de Français veulent des prisons, mais pas près de chez eux. Donc il y a un vrai problème là, un vrai problème pratique. Et nous, écologistes centristes, sommes particulièrement pratiques et particulièrement efficaces. Donc il faut choisir des îles peut habiter ou habiter. Et vous savez que notre pays a le privilège d'avoir des îles de ce type dans trois océans, hein, océan Atlantique, océan Pacifique et océan Indien. Donc, faut en choisir une, deux, trois, parce que pour un avis, il faut en faire plusieurs. Et donc, avec des gardiens de prison, normalement, etc. Et effectivement, pour qu'eux ne soient pas éloignés de leur famille, ça peut durer 3 mois, 6 mois. Après, ils reviennent. Hein. Ils seront mieux payés que d'autres, bien sûr. Mais aujourd'hui, avec l'électronique possible, parce qu'effectivement, je préfère un monde végétal qu'un monde digital, mais un peu de digital, c'est bien. Et là, c'est utile. Et donc, ça ne demande pas une masse absolue de gardiens. Mais bien sûr, ils seront dans le cadre de prison. Effectivement, ils n'auront pas de parloir pendant un temps défini, parce que c'est loin, parce que ce n'est pas pratique. Nous sommes d'accord. Mais ça concerne bien des individus particuliers qui doivent, à un moment donné, payer l'addition de leurs méfaits.
Alors, on revient un instant sur... bon, on l'a bien compris, hein, sur le bannissement, votre proposition. Et on revient sur les prochaines campagnes électorales, et notamment, donc, votre liste est une liste concurrente à Europe Écologie Les Verts.
Tout à fait, oui.
Ça s'appelle l'écologie au centre. Et l'autre liste est conduite par Marie Toussaint. D'abord, vous parlez, vous défendez une écologie transversale. C'est quoi une écologie transversale ?
Ben, quand Marine Tondelier, la boss d'Europe Écologie, Sandrine Rousseau, la star d'Europe Écologie, et Marie Toussaint, la tête de liste que personne ne connaît d'Europe Écologie, disent l'écologie, d'accord, c'est bien de le dire. Mais quand vous dites dans la même phrase que vous êtes de gauche et que pour la gauche et que la solution est à gauche, ben vous vous coupez des 3/4 des électeurs. C'est un suicide électoral. Donc, à partir du moment où nous sommes autant médiatisés qu'Europe Écologie, nous ferons un score largement supérieur et par conséquent, nous aurons plus de députés et par conséquent, nous porterons la bonne parole. Parce que, comme je l'ai démontré, l'écologie est un projet de société complet, au même titre que le libéralisme, le socialisme ou le communisme, qui ont été appliqués partout sur la planète avec le désastre que l'on connaît. Donc, il est temps de enfin appliquer l'écologie qui repose sur une économie de marché encadrée, une économie de marché intelligente. Et c'est bien nous qui l'incarnerons avec Écologie au centre.
Alors, manifestement, Sandrine Rousseau, c'est votre tête de turc, parce que vous dites on va faire une liste anti-Sandrine Rousseau. En quoi Sandrine Rousseau est un drame ou dangereuse, comme vous le dites dans certaines interviews ?
Vous savez, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a dit que tous les gouvernants du monde devraient s'inquiéter d'abord de deux sujets, l'habitabilité de la planète et la survie de l'espèce humaine. Le fait est que ça repose sur l'écologie et sa facette environnementale. Donc il faut une écologie qui parle à tous, il faut une écologie qui rassemble tout le monde, et quand vous avez une Sandrine Rousseau, la star de LV, qui est aussi souvent dans les médias pour dire autant de conneries, créer autant de clivages et autant de murs entre nous les écologistes, parce qu'il faut aller sur le terrain. Aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain et que vous dites que vous êtes écologiste, « Ah, Sandrine Rousseau, je veux pas !» Et vous allez voir le mauvais score qu'ils vont faire aux européennes, malgré leur notoriété et leur surmédiatisation. Donc, effectivement, Sandrine Rousseau, c'est un drame pour l'écologie, comme je l'ai exprimé dans le Figaro le mois dernier.
Alors, vous défendez une écologie dite d'ouverture. Vous voulez que les déçus d'Europe Écologie Les Verts vous rejoignent, ceux du macronisme, et même ceux du Rassemblement National. Alors, comment vous allez rassembler tous ces gens ?
Ah ben, c'est très aimable de me poser la question, parce que ça me permet de préciser que il faut que, si vous voulez, mener une action politique pour les centristes, c'est protéger, c'est agir, c'est prévoir et c'est informer. Protéger, agir, prévoir, informer. Donc il est important que les gens sachent que tous ces gens qui votent RN, c'est pas tous des extrémistes, c'est pas tous des racistes. Une partie d'entre eux veut renverser la table. Et en votant RN, ils renversent la table par le bas. Écologie au centre leur propose de renverser la table par le haut, par un projet de société novateur, grandiose, qui résout véritablement les problèmes financiers, de pouvoir d'achat, d'environnement, de santé, d'emploi, comme je le prouve dans toutes mes interventions. Et ça, c'est formidable. Donc, effectivement, on va capter un électorat du RN. Effectivement, on va capter un électorat de la Macronie, parce qu'il a déçu plein de gens. Monsieur Macron a osé dire que son second quinquennat serait écologiste ou ne serait pas. Et puis, à 2 mois, il est pour le permis à 17 ans. Ce qui est hallucinant, quoi. C'est une faute énorme que de prévoir qu'au 1er janvier 2024, les jeunes de 17 ans pourront conduire. Ça veut dire que potentiellement, on a 800 000 voitures de plus, puisqu'il y a 800 000 jeunes de 17 ans en France. 800 000 voitures de plus, mais c'est incroyable de prendre des décisions comme ça. Alors qu'il existe la voiture sans permis. Elle est moins chère, elle ne pollue pas. Vous savez que le poids moyen d'une voiture en France est 1,3 tonne. Et le français moyen, il fait 65 kilos. Femmes, enfants, hommes confondus. Donc, aussi géniaux soit-on, puisqu'on est capable d'aller sur la Lune, on est capable de faire un tas de trucs, on a conçu un véhicule dont 30 millions de véhicules roulent chaque jour, qui fait 1,3 tonne avec 65 kilos dedans, 20 fois moins. Et Macron, il va en rajouter 800 000. Non, mais c'est incroyable, des fautes pareilles. Incroyable. Donc, le message qu'on donnera à tous les macronistes déçus, et vous savez très bien qu'il y en a, c'est qu'ils votent pour écologie au centre. Idem pour les LR. Et idem, effectivement, pour les vrais militants écologistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils vont nous reconnaître, parce qu'évidemment, sur notre liste, il y aura aussi des gens de sensibilité de gauche, mais pas des sectaires, des personnes ouvertes. Il y a des gens de gauche qui ont une grande valeur. Le journaliste Mathias Leboeuf, qui a écrit un livre sur moi, est un homme de gauche. Il a écrit un livre sur moi. Il y a des gens vraiment intéressants dans tous les bords, mais il faut arrêter avec le sectarisme.
Donc, ce que vous préconisez, comme vous le dites, c'est une écologie qui parle à tous.
Ah, c'est capital. C'est ça. Mais votre survie en dépend, monsieur. La survie de tous ceux qui nous écoutent en dépend. Parce que la seule solution à tous nos problèmes, c'est l'écologie. Pour l'emploi, pour la santé, pour les finances.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h. Les grands témoins avec Nasser Khétan.
Jean-Marc Governatori, j'imagine que l'écologie au centre a aussi des réponses sur le social. Aujourd'hui, on a eu des émeutes qui ont défrayé la chronique. On n'a pas de réponse. On ne sait pas. La politique de la ville est quasiment muette, aphone. Quel est votre projet ? La précarité due à une inflation galopante va en augmentant. On attend le plan pauvreté du gouvernement qui devrait arriver d'un moment à l'autre. Et on a des inégalités qui se creusent, les couches moyennes qui sont très 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 mal dans la mesure où il est très compliqué pour un couple avec deux enfants maintenant d'acheter une maison ou de changer d'appartement. On a les niches qui sont complètement on a l'impression qu'il y a une chasse un petit peu au moindre euro. Il y a un climat quand même très tendu. Quelles sont les réponses par rapport à ça de l'écologie au centre?
C'est très intéressant votre façon de voir le problème du pouvoir d'achat, parce qu'effectivement c'est vraiment dans la culture française, quoi. L'État doit tout. Et l'État peut tout. Eh bien non. Et nous, à Écologie au Centre, on dit que l'État ne doit pas tout et l'État ne peut pas tout. Pour nous, le principe de responsabilité, le principe de co-responsabilité est capital. Il faut arrêter de faire croire des mensonges aux gens. Le problème, c'est que depuis des décennies, et c'est pourquoi on va si mal en termes financiers, hein, je rappelle que en 2022, le déficit de l'État était de 150 milliards, le déficit de la Sécu, 18 milliards, le déficit du commerce extérieur, 160 milliards, et que chaque jour, nous devons emprunter 700 millions d'euros pour payer le social, les retraités, etc., etc. Vous vous rendez compte, chaque jour, on doit emprunter pour pouvoir payer les retraites, etc., etc. Bref, la France est le pays le plus socialiste du monde. Il n'y a aucun pays, dans le monde, il y a 200 États, il n'y a aucun pays qui fait autant pour les personnes. Donc, 33% de PIB et 800 milliards d'euros. C'est colossalissime et c'est intenable. Donc, faut arrêter de faire croire aux gens qu'on va faire ceci et cela. Donc là, quand par exemple les incultes du RN et les incultes de la NUPES expliquent qu'il faut baisser le prix de l'essence, comme ça on va en polluer un peu plus l'air qui tue déjà 50 000 personnes par an, et qu'il faut faire ceci, cela sur le prix de l'essence, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a qu'une solution qui est extraordinaire, qui fonctionne demain matin et qui coûte rien. C'est le covoiturage. Est-ce que vous vous rendez compte que 70% des Français qui prennent leur voiture tous les matins, la prennent tout seul, et ça représente donc effectivement...
Ils sont dans les bouchons entre 1h et 2h en général.
En Ile-de-France, ils perdent une semaine de vie par an. Et c'est des statistiques officielles, hein, c'est pas Perlin-Pimpin qui a dit ça. Hein. On passe en Ile-de-France une semaine par an dans les bouchons. 70% des personnes prennent leur voiture pour faire moins d'un kilomètre. Il y a 3% de covoiturage. Et après, on râle pour le prix de l'essence. À un moment donné, il faut être concret, quoi. Donc il faut s'organiser dans les immeubles, dans les quartiers, dans les entreprises, pour qu'on se parle et qu'on se dise, toi tu vas où, par où tu passes, etc., etc. Le covoiturage doit venir dans notre culture. Ça, c'est un point capital. L'échange des biens, des compétences, du temps aussi de rentrer dans la culture. On pourrait faire tellement d'économies si on se parlait, si on s'échangeait, si on s'aidait. Mais malheureusement, la culture de notre pays, c'est l'individualisme et le consumérisme. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que notre pays perd sa notation et qu'elle emprunte de plus en plus cher. Donc à un moment donné, l'État, il ne peut pas tout. L'État, il peut donner l'impulsion. Donc par exemple, sur le cas du covoiturage, dans notre pays, il y a 500 000 élus, dont les conseillers départementaux, dont les députés, dont les conseillers municipaux, dont les adjoints, qui doivent faire ce travail de terrain. Il est capital, monsieur Kétan, que les gens s'organisent pour covoiturer. D'ailleurs, il y a une tribune qui va sortir de moi dans quelques jours.
Bon, l'État, de toute façon, est garant de l'intérêt général et il est garant du régalien, l'école, le transport, la santé, etc.
Et la sécurité.
Et la sécurité. Alors, Jean-Marc Governatori, aujourd'hui, c'est peu dire que la planète brûle. Réchauffement climatique, les incendies, la fonte des glaciers, les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis,
les mégafeux,
l'invasion des criquets et j'en passe. Les transformations même des moustiques, on a une apparition de nouveaux moustiques, de nouveaux frelons. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent compte tenu du changement complet des écosystèmes. Une question. Est-ce que c'est pas trop tard pour enrayer tout ça ?
Alors effectivement, certains experts pensent comme ça. Ils pensent que c'est trop tard, mais c'est une mauvaise façon de penser. Parce que si c'est trop tard, ça veut dire qu'on fait plus rien et que nos enfants et nos petits-enfants, on est cuit. C'est le cas de le dire à tous les sens du terme. Non, il faut surtout pas véhiculer ce type d'informations. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est vrai qu'un effort reporté est toujours plus coûteux, mais si vous développez des solutions simples comme celles que nous porterons dans la campagne des élections européennes, comme un vrai développement massif du covoiturage, de la rénovation énergétique, de l'économie circulaire, on répare tout, on recycle tout, de l'option végétarienne quotidienne, des énergies renouvelables, des mesures de cette nature, qui coûtent pratiquement rien au budget européen, au budget de l'État, eh bien vous aurez des solutions très fortes, très vite.
Jean-Marc Governatori, on est dans un monde, parce que c'est vous venez de dire que la planète est perturbée, donc il faut s'en occuper, mais on a le sentiment que l'être humain, il est ailleurs, dans une prédation, dans des conquêtes territoriales et dans des guerres. On le voit avec Poutine en Ukraine, je vais prendre un peu de territoire, alors qu'il a le pays le plus étendu au monde.
17 millions de kilomètres carrés déjà.
On voit Erdogan qui, après Chypre, veut prendre aussi un peu de territoire grec. On voit l'Azerbaïdjan qui est dans le Haut-Karabakh, qui veut prendre de la terre. La Chine qui envoie des avions, là, qui est en train de préparer son coup pour reprendre Taïwan. Donc, et j'en passe. En Afrique, en Amérique du Sud. D'un côté, une planète qui brûle, donc qui devrait concentrer tous les efforts, toute la vigilance et tous les moyens des États. Et de l'autre côté, des gens qui sont dans des procédures d'hégémonie et des tactiques de prédation, de conquête territoriale. Qu'est-ce qui se passe ?
Mais ça me fait plaisir que vous me posiez cette question parce que ça me permet de préciser que ce que personne ne dit, mais je suis féru d'histoire et donc je veux préciser que la situation politique mondiale en 2024 sera pire que la situation politique mondiale en 1945. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec la choucroute. Bon, 1945 c'était bien parce que c'était la fin de la guerre. Mais 1945 a déterminé beaucoup de choses. C'était les accords de Yalta. C'était en février 1945. Et ce qui est tristement remarquable, c'est que les trois personnalités qui ont signé l'accord de Yalta étaient d'une part Staline, qui était notoirement psychopathe, Churchill, qui était notoirement alcoolique, et Roosevelt, qui était notoirement mourant. Vous savez qu'il a signé les accords de Yalta en février 1945 et Roosevelt est mort en avril 1945. Vous vous rendez compte que trois individus dans cette situation psychologique-là ont déterminé le sort du monde et aujourd'hui encore on est dans ce monde-là en partie. Que se passe-t-il en 2024? En 2024, vous avez les élections en Russie. Il est très probable que le triste Poutine va être élu et qu'il va entamer donc sa 24e année de mandat, parce qu'il y a eu l'intermédiaire Medvedev, mais bon, ça, c'était lui, quoi, en fait, quoi, hein, puisqu'il était Premier ministre. C'est lui qui l'avait mis en place. Donc, on va subir à la 24, le monde et la Russie vont subir la 24e année de Poutine en 2024. En 2024, tu auras toujours Xi Jinping, qui est un dictateur incroyable, qui a aussi l'arme nucléaire comme Poutine. Et le problème, c'est pas tant l'arme nucléaire, c'est l'existence ou pas de contre-pouvoirs. Quand les États-Unis et la France ont l'arme nucléaire, il y a quand même des contre-pouvoirs. En Chine et en Russie, qui sont deux pays nucléarisés, il n'y a pas de contre-pouvoirs. Vous vous rendez compte comme c'est grave la situation politique mondiale ?
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'histoire se répète ?
Ah non, et ça grave.
Et qu'on a la merci
mais
de
vous rendez compte ce qui se passe aux États-Unis ?
On a la merci de nouvelles guerres.
On va avoir aux États-Unis, toujours en 2024, c'est pourquoi je prenais cette année de référence avec 45, deux octogénaires, un qui est fou. Et un qui est sénile. Vous avez vu encore il y a deux jours que...
Oui, mais ils ont quand même des sénats, des assemblées.
Ah non, mais
ils ont
c'est
des gens qui réfléchissent, Jean-Marc Levin.
D'accord, mais c'est eux les maîtres.
Ils ne sont pas tout seuls.
On est d'accord,
ils sont tout seuls avec leur bouton rouge.
Ah ben, ils sont moins puissants, effectivement, vous avez raison, que Poutine et Xi Jinping, mais ils sont largement influents sur l'ensemble de la planète. C'est la première puissance militaire, première puissance économique.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut exporter la démocratie.
Ah ben, c'est l'Union européenne. La solution, c'est l'Union européenne. Le dimanche 9 juin 2020, il est capital. Il est capital que les 450 millions d'Européens embrassent cette élection, parce que la seule lumière sur la planète, c'est l'Union européenne. Pour les droits de l'homme et de la femme, pour la démocratie, pour une nouvelle économie, pour l'environnement, pour la santé. La solution de 2024, on a les problèmes avec ailleurs sur les pays comme je viens de citer, mais la solution, elle viendra de Bruxelles et Strasbourg.
Et d'ailleurs, lorsque vous avez un individu qui quitte n'importe quel pays sur la planète, lorsqu'on lui dit où est-ce que tu veux aller, il dit jamais je vais aller à Pékin ou à Moscou, il dit je vais aller à Paris, à Rome, à New York, etc.
C'est une très bonne remarque. Je veux vous dire que c'est la première destination touristique mondiale. Il y a 600 millions d'êtres humains qui vont en Europe. Il y en a la moitié qui vont en Asie. Donc effectivement, tout le monde veut être européen.
Jean-Marc Govanatori, merci mille fois d'avoir accepté ce grand témoin. On va vous suivre tout au long de l'année. On va vous retrouver aussi dans différents espaces au niveau de la radio. Merci et puis on se retrouve très bientôt.
Merci
pour
à vous.
Suivre un peu votre campagne. Et à très bientôt et merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.